Monsieur David. Bonjour à tous et à toutes. Un plaisir de se retrouver ici. En particulier, Claudie le soulignait au tout début du séminaire, c'est une occasion où on retrouve à la fois des gens du milieu académique et des praticiens des Nations Unies. Alors moi, j'ai toujours été un partisan des échanges entre ces deux groupes parce que je pense que les deux groupes peuvent en tirer profit. Et pour les praticiens que nous sommes, et il y en a plusieurs ici dans la salle, les Nations Unies, et c'est un peu ça à quoi faisait allusion M. David, c'est à la fois une source d'excitation, une source de frustration. Parfois, on a l'impression de travailler sur des choses et d'avoir un impact réel et significatif dans la vie des gens. Parfois, on a l'impression de travailler beaucoup et ça ne donne rien. On disait parfois dans nos négociations aux Nations Unies que ce soir, quand on va sortir à minuit et qu'on va traverser la première avenue, il n'y a personne sur la planète qui va se préoccuper de ce qu'on a fait pendant la journée. Alors, ça varie énormément. Parfois, on a l'impression que c'est une organisation qui ne peut pas se réformer. Je sais qu'il y a eu des discussions tantôt sur le Conseil de sécurité, notamment. Parfois, on voit que c'est une institution qui peut se réformer. J'en prends à titre d'exemple dans le domaine des droits de la personne, quand on a créé le nouveau Conseil des droits de l'homme, la création du mécanisme de revue universelle, le UPR, comme on dit en anglais, ça, c'est quelque chose que le Canada a piloté. Et quand on s'est lancé là-dedans, moi, j'ai écrit les deux premiers papiers sur ce sujet-là, les gens m'ont dit, on n'a pas oublié ça, oui, donc ça ne se passera jamais à avoir tous les pays des Nations Unies qui viennent se présenter devant le Conseil à tous les X années, oublie ça, ça ne se passera pas. Et pourtant, ça s'est passé de façon bien imparfaite, comme toujours aux Nations Unies, mais tout ça pour dire que les Nations Unies, parfois ce sont des succès, mais parfois ce sont aussi des frustrations. Mais chose certaine, si les Nations Unies n'étaient pas là, on les inventerait ou on inventerait quelque chose du genre. Et puis bien sûr, n'oublions jamais que les Nations Unies, c'est d'abord et avant tout la somme totale, pour le meilleur et pour le pire, des États membres. Alors, dans le panel, les deux jours qu'on a eus, on a beaucoup parlé du passé, de la situation actuelle. Puis ce dernier panel, ben, c'est qu'est-ce qui s'en vient à l'horizon. Et comme le disait M. David, moi, mon thème, c'est un agenda onusien très ambitieux, mais est-ce que tous les partenaires sont à la page? Je m'explique. Évidemment, l'agenda des Nations Unies, c'est un agenda extrêmement ambitieux. En paix et sécurité, de la personne, des nouveaux objectifs de développement durable, aussi modestes que éliminer la pauvreté dans toutes ses formes d'ici 2030. Alors, c'est très ambitieux. Mais pour mettre cet agenda-là en œuvre, ça prend plein du monde. Et évidemment, les États souverains, ça reçoit les 193 membres des Nations Unies, mais ça prend du monde aussi et des organisations en dehors de ça. Je vais faire une petite parenthèse. Parmi les acteurs internationaux, il y a évidemment les organisations criminelles, terroristes, les États islamiques de ce monde et tout ça. Ce sont des acteurs qui ont l'influence, mais disons que, sauf rares exceptions, ce ne sont pas les gens qu'on va avoir à la table principale. Alors, mettons ça de côté. Quels sont les autres acteurs et sont-ils présents? Société civile, évidemment. Il y a beaucoup d'ONG dans le domaine du développement, dans le domaine des droits de la personne et tout. Sont-ils à la table? En partie, oui. À l'ECOSOC, au Conseil des droits de l'homme, dans différents endroits, de façon modeste, mais la société civile a une certaine participation, une certaine représentation de la société. Ensuite, on parle de développement économique. Les acteurs du secteur privé, sont-ils parties prenantes à ces discussions et tout ça? Ce sont évidemment des acteurs importants, mais en un mot, on peut dire qu'essentiellement, ils ne sont pas à la table aux Nations Unies. Sauf de rares exceptions. On pourrait débattre est-ce que c'est nécessaire ou pas, mais constatation, ils ne sont essentiellement pas à la table. Mais laissez-moi me concentrer sur un autre groupe d'acteurs importants. On parle du rôle des gouvernements, des États, évidemment, les États nationaux. Mais en dessous des États nationaux, des gouvernements centraux, des gouvernements fédéraux, il y a plusieurs autres paliers de gouvernance et de gouvernement qui ont un rôle important à jouer. Les provinces, les départements, les villes, les autres formes de gouvernement locaux. Et pourquoi je parle de ça? Si on parle d'abord, premièrement, quelques statistiques qui illustrent l'importance du monde urbain en général. De nos jours, enfin en 2010, on disait qu'il y avait à peu près 54% de la population mondiale qui vivait dans les zones urbaines. En 2050, ça va passer à peu près à 70%. En 2100, 85% de la population mondiale dans les agglomérations urbaines. Alors, quand on parle de développement, des enjeux comme le logement, qui s'occupe du logement, logement social en particulier, l'eau potable, qui assure l'adduction d'eau potable, la salubrité, qui ramasse les vidanges, les emplois, évidemment, où est-ce qu'ils se trouvent les emplois, souvent en zone urbaine. Alors, tout ça, ce sont des enjeux sur lesquels, évidemment, les gouvernements nationaux, centraux, fédéraux ont un rôle à jouer, bien sûr, mais des enjeux sur lesquels aussi les paliers de gouvernements infranationaux ont aussi une responsabilité et un rôle à jouer. Alors, mon point ici, c'est que si on veut réaliser l'agenda ambitieux des Nations Unies sous plusieurs chapitres, il faut, d'une façon appropriée, amener ces paliers de gouvernance-là à la table et les mobiliser. Je ne suis pas en train de vous dire que les Nations Unies, qui sont présentement 193 pays, 193 drapeaux, ça doit devenir une assemblée de dizaines de milliers de villes, de provinces, de départements. Non, je ne m'en vais pas là. Mais, d'une façon ou d'une autre, il faut s'assurer de la participation et de la mobilisation de ces paliers de gouvernement pour assurer la réalisation de l'agenda des Nations Unies. Où est-ce qu'on en est à ce chapitre-là? Je dirais un peu au début, mais il y a quelques bonnes nouvelles et quelques bons développements. Première chose, en termes d'agenda, dans les objectifs de développement durable, plusieurs de ces objectifs-là qui sont reliés, comme je mentionnais tantôt, à des responsabilités de gouvernements locaux, mais on a identifié un objectif de développement durable en particulier, l'objectif numéro 11, qui est directement relié au travail qui doit se faire en milieu urbain. Et là, je n'ai pas tout à fait le texte devant moi, mais l'objectif dit essentiellement qu'on doit s'assurer de développer des villes sûres, résilientes, qui fournissent les services à la population et tout. Alors ça, c'est en termes d'agenda onusien, c'est un développement nouveau et un développement positif. Comment ça a pu se passer, ça? Bien, c'est en partie parce que cette fois-ci, les paliers de gouvernements locaux ont participé aux discussions, aux négociations. Il y a toutes sortes d'associations de villes et de gouvernements locaux dans le monde. Mon collègue Simon Langelier, qui est là, ici, dans la salle, peut vous énumérer l'alphabet et les combinaisons de toutes les lettres des organisations de gouvernance locale. Mais ils se sont regroupés cette fois-ci dans un truc qui s'est appelé, à défaut d'un meilleur terme, le Global Task Force. C'est pas très original. Mais ce groupe-là a participé aux discussions sur l'établissement des objectifs de développement durable et notamment, évidemment, l'objectif numéro 11. Alors donc, un certain progrès, tant en termes d'agenda qu'en termes de participation. Maintenant, partant de ça, si on regarde de l'avant, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il y a tout un agenda et des activités qui s'en viennent au cours des quelques deux prochaines années, en fait, qui sont assez intenses sur ces enjeux-là. Premièrement, il y aura la conférence d'Habitat 3 à Quito l'année prochaine, 2016. Habitat 3, c'est dans la suite. Habitat 1 a eu lieu à Vancouver en 1976, Habitat 2 à Istanbul en 1996, et là, on aura Habitat 3. Quelle sera l'innovation de Habitat 3? C'est sur le thème général, c'est les habitats humains, human settlements en anglais. Un des objectifs clés d'Habitat 3, c'est de développer un nouvel agenda urbain. Qu'est-ce qu'on doit faire en milieu urbain pour s'assurer de l'atteinte de tous ces autres objectifs? Montréal est une partie prenante à ça. On a d'ailleurs été l'hôte, il y a environ un mois, d'une conférence thématique d'Habitat 3 en préparation de Quito. Et notre rapport original, et ça c'était vraiment une initiative de Montréal, notre rapport original, ça a été de faire reconnaître le rôle des aires métropolitaines. C'est-à-dire que dans une grande agglomération comme Montréal et dans beaucoup d'autres endroits sur la planète, il y a plusieurs villes, mais à un moment donné, il faut regarder l'aire métropolitaine dans son ensemble pour s'assurer coordination des transports, etc. Alors ça, ça a été une contribution qu'on a faite, et ça, ça va être à l'agenda de Quito l'année prochaine. Et parlant de participation, quand je posais la question « Est-ce que tout le monde est à la table? » À Quito, l'année prochaine, de différentes façons, les paliers de gouvernance locale vont pouvoir participer à la conférence, apporter leur contribution. Ça, c'est une avancée. Je vous parle d'Habitat 3, mais il y a d'autres chantiers importants aussi. Pour en prendre un, et non le moindre, les changements climatiques. La COP21 qui s'en vient à Paris la semaine prochaine, bien sûr, toute l'attention est essentiellement portée sur les négociations des textes, et puis ça, c'est les États souverains, évidemment, qui négocient les textes. Mais les villes, les zones urbaines, métropolitaines, en matière de changement climatique, font partie du problème et à la fois peuvent faire partie de la solution. Alors, à Paris, en marge et en partie à l'intérieur de la conférence, il y aura beaucoup d'activités qui vont impliquer les villes. Le maire de Montréal, évidemment, M. Coderre, va être là. Il va être là, entre autres, comme porte-parole d'une association qui s'appelle Métropolis, qui est le regroupement mondial des villes métropolitaines. Il est l'ambassadeur du changement climatique pour cette association et les villes, Montréal et les autres, on va participer aux événements de COP. On fait également partie d'une initiative qui a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui s'appelle le Compact of Mayors, qui regroupe les maires et les villes qui veulent s'impliquer plus activement au changement climatique, réduire les effets de serre, les émissions des gaz et faciliter l'adaptation. Dernier thème que je vais mentionner, un thème relativement nouveau, si je peux dire ainsi, le thème du vivre ensemble, c'est-à-dire que dans la foulée des attentats terroristes et tout ça qu'on a vécu à l'échelle mondiale, dont Charlie Hebdo, à Montréal, on a décidé de tenir un grand rassemblement de maires sous le thème du vivre ensemble, qui essentiellement touche à l'inclusion sociale et la cohésion sociale, tout en étant vigilant sur les possibilités d'extrémisme. Alors ça, c'est un peu un nouveau chantier, un nouveau thème, où Montréal est un pionnier. Et on a créé d'autres instances, notamment au sein de la francophonie, où on va pouvoir parler de ça. Bref, en conclusion, l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que, un, on a un agenda onusien extrêmement ambitieux. Deux, si on veut le réaliser, ça prend la participation de nombreux partenaires au-delà des États nationaux. Et parmi ces partenaires, il y a les villes et les paliers de gouvernement local. Et puis, Montréal fait vraiment partie de ça, joue un rôle de leadership dans certains de ces domaines-là. Et puis, en conclusion, vous savez, à tout le monde en parle, là, quand on a des invités, il y a toujours une plug publicitaire à un moment donné. Hein? L'invité, là, on joue son nouveau disque ou on annonce son nouveau spectacle. Alors, je vais me permettre de faire une petite plug, mais François Larochelle l'a mentionné d'ailleurs au tout début de l'événement. Montréal est aussi une ville qui accueille beaucoup d'institutions des Nations Unies, notamment l'OACI, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, le secrétariat de la Convention de la biodiversité, etc. Samedi, c'est la Journée mondiale des Nations Unies, et puis nous allons fièrement sur l'hôtel de ville arborer le drapeau des Nations Unies à côté de celui de Montréal. Alors voilà, M. David, voilà.